Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Centaine de morts. Donc le constat, il est que nous sommes toujours en phase de circulation très active du virus dans l'ensemble du pays. Le deuxième constat, c'est que malgré cette circulation très active du virus, elle est un petit peu moins rapide que les jours qui ont précédé la mise en place du couvre-feu et du confinement. C'est-à-dire que ce qui a changé depuis 15 jours, c'est que nous étions en phase de croissance de l'épidémie et qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de décroissance de l'épidémie. Mais à un niveau de circulation...
Nous avons commencé la décroissance.
Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie. Cela fait bientôt 2 semaines qu'il y a moins de nouvelles contaminations chaque jour que les jours précédents, ce qui est une bonne chose, ce que nous avons connu au printemps. Mais je le dis tout de suite, ça ne veut pas dire que nous avons vaincu le virus ou que l'épidémie serait terminée. Ça veut dire que nous sommes toujours en phase de circulation active importante du virus, mais que nous sommes en train de reprendre le contrôle sur la dynamique de l'épidémie. Ça veut dire que les mesures qui ont été actées par le gouvernement fonctionnent. Ça veut dire que la solidarité, le courage, l'abnégation, j'allais dire, dont font preuve les Français depuis plusieurs semaines, est en train de payer et qu'il est urgent de poursuivre.
Ça veut dire, Olivier Véran, que le pic épidémique est passé.
Ça veut dire qu'un pic épidémique, cas, vous savez, je reste prudent, parce que si nous relâchions nos efforts, par exemple, trop tôt, ce que le gouvernement ne souhaite pas, et ce que les Français ne souhaitent pas, mais imaginez qu'il y ait un relâchement collectif des efforts, un moindre respect du confinement, eh bien alors nous ne serions pas à l'abri d'une nouvelle flambée épidémique qui emporterait tous les efforts que les Français ont réalisés depuis plusieurs semaines.
Le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron disait « Mi-novembre, il y aura 9000 patients en réanimation. On est à 4903 aujourd'hui. » Vous avez dit « Le 5 novembre, il y aura 7000 patients en réanimation. » Est-ce que vous aviez exagéré les chiffres pour faire avaler, si je puis dire, passez-moi l'expression, les mesures aux Français ?
Permettez-moi de corriger vos chiffres.
Bon, allez-y.
Bien. Il y a 3500 patients atteints de Covid en réanimation, 3300 patients admis en réanimation pour d'autres motifs que le Covid, et près de 2000 patients atteints de Covid dans des soins intensifs qui ont été transformés en réanimation. Si vous faites le calcul avec moi, nous sommes à date à environ 8400 malades en réanimation. 8300 à 8400 malades en réanimation, c'est-à-dire plus de 140% de nos capacités initiales de réanimation. Donc les prévisions, les modélisations, vous vous souvenez, j'avais présenté des courbes déjà il y a 2 mois aux Français, en leur disant voilà ce qui va se passer si nous ne prenons pas le contrôle sur le virus. Et notre objectif, c'est de faire mentir ces modèles, mentir ces courbes. En l'occurrence, la charge sanitaire est extrêmement élevée dans notre pays, extrêmement élevée. Il y a plus de malades à l'hôpital pour Covid que lors de la première vague. Il y a un peu moins de réanimation, mais on y reviendra si vous le souhaitez, parce que nous avons transformé les prises en charge, transformé le fonctionnement hospitalier, nous nous appuyons davantage sur la médecine de ville, et parce que les effets du couvre-feu ont aussi été perceptibles dans la dynamique épidémique.
Alors on va parler des traitements, on va parler des vaccins, évidemment, la politique vaccinale de la France, quelle sera cette politique? Le confinement va-t-il durer jusqu'à la fin de l'année 2020?
Je ne peux pas vous donner de date de fin du confinement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons, retrouver un niveau de circulation du virus compatible avec une pleine reprise en main de la gestion de l'épidémie.
C'est-à-dire
que nous
soyons... 5 000 contaminations par jour, disait Emmanuel Macron.
Nous sommes en train de développer des nouvelles capacités de contact tracing pour faire en sorte d'être capable de casser les chaînes de contamination. De quoi on parle finalement? Si le virus circule beaucoup et que vous avez des milliers de Français qui sont contaminés aux quatre coins du pays tous les jours, vous avez beau faire des appels à ces Français, essayer de trouver tous les contacts qu'ils ont pu avoir pour essayer d'isoler tout le monde et d'éviter que la contamination ne s'étende, c'est très difficile. Plus vous avez un niveau de contamination au quotidien qui est faible, plus vous êtes efficace dans votre capacité à casser des chaînes de contamination avant qu'elles ne s'étendent. Ça, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre qui est aussi important, c'est la charge sanitaire pour nos hôpitaux. C'est-à-dire que quand on a plus de 8000 malades qui sont entre la réa et les soins intensifs transformés, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir des soins qui sont déprogrammés. Vous êtes obligé de rappeler des patients qui devaient être opérés pour une prothèse de hanche qui souffle le martyr pour leur dire « on ne peut pas vous opérer maintenant, on vous rappellera dans quelques semaines ». Ça veut dire que vous mettez en tension toute la filière de soins hospitalières, que vous utilisez toutes les ressources humaines, que vous empêchez des départs en vacances pour des soignants et que vous êtes en permanence sur le fil. Aujourd'hui, elle est là, la réalité dans notre pays. Elle est là. Et les hôpitaux font face avec... encore une fois, énormément de courage, énormément de force et d'efficacité. Donc nous devons faire baisser cette pression sanitaire et nous devons reprendre pleinement le contrôle sur les chaînes de contamination du virus.
Bien.
Là, nous aurons dans ce cas-là gagné. nous aurons gagné sur cette deuxième vague, nous n'aurons pas encore gagné l'épidémie, puisque vous le savez, le virus continuera de circuler, même à bas bruit.
Donc le confinement, nous ne savons pas. Vous ne savez pas jusqu'à quand va durer ce confinement. On est bien d'accord. Est-ce qu'il pourrait durer jusqu'à Noël ?
Ce que nous voulons, très clairement, c'est permettre évidemment aux Français de passer des fêtes de Noël, des fêtes du Nouvel An, des vacances. En famille, évidemment, c'est important, la famille.
En famille, ça veut dire quoi, en famille ? Ça veut dire des déplacements possibles.
Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin.
Oui.
Mes parents m'ont appelé. Parce que mes parents sont des Français et ils se posent la même question que les Français et ils ont parfaitement raison. Ils m'ont dit, mon petit, est-ce qu'on a une chance de te voir à Noël et comment est-ce qu'on commence à s'organiser ? Donc, les questions que se posent les Français, toutes les familles françaises se les posent, et la mienne y compris. Je leur ai dit et je leur fais la même réponse que celle que je fais aux Français aujourd'hui devant vous. Évidemment, je souhaite de tout cœur pouvoir être avec vous à Noël, pouvoir rassembler les frères et sœurs autour de la table. Je ne peux pas vous promettre aujourd'hui que nous pourrons être rassemblés tous ensemble à n'importe quel endroit du pays, mais je le souhaite ardemment. Et ensuite, je peux vous promettre une chose, c'est que forcément, nous devons faire très attention. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous réunirons, nous devons faire attention. Ça ne veut pas dire nécessairement ne pas partager un repas.
Ça veut dire que
nous garderons les gestes barrières, que nous ferons attention les uns aux autres et que nous serons vigilants.
Ça veut dire qu'il est possible que le certificat de circulation dure jusqu'à la fin de l'année 2020. Qu'on soit obligé de montrer un certificat de circulation, une autorisation, jusqu'à la fin de l'année 2020.
Ça veut dire que si j'avais la réponse à la question que vous posez, bien qu'elle soit parfaitement légitime, c'est que je serais doté de capacités de voir dans l'avenir. Or, je crois que toutes celles et ceux qui se sont succédés sur votre plateau prétendant être capables de voir dans l'avenir se sont plantés. Donc moi, je préfère donner des réponses fermes aux Français. Ma réponse ferme aujourd'hui, c'est en train d'aller mieux. Vos efforts sont en train de payer. Il ne faut surtout pas les arrêter. Il ne faut surtout pas changer de cap. Nous l'avons fait au printemps. Oui, c'est long. Oui, c'est pénible, mais c'est à ce prix-là que nous retrouverons une vie normale.
Ce qui veut dire que ces certificats, ces autorisations de circuler ne seront pas supprimées le 1er décembre.
Ça veut dire que les autorisations de circulation ne seront pas supprimées le 1er décembre. Le Premier ministre l'a dit lui-même, jeudi dernier, je ne prends pas grand risque en vous répondant.
Bien, un confinement pour les seules personnes vulnérables, les plus âgées, les plus vulnérables.
Moi, je n'y suis toujours pas favorable.
Toujours pas.
Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Oui. Il y a des gens qui peuvent s'isoler et qui ont la chance d'avoir un pavillon, une maison, un appartement dans lequel ils peuvent vivre seuls ou à deux âgés. Et puis, il y a beaucoup de familles, c'est la réalité des familles françaises, qui partagent des appartements entre générations. Qu'est-ce que vous faites de ces personnes ? Qu'est-ce que vous leur dites ? À quel âge vous mettez le cut ? À partir de quand ? La moyenne d'âge en réanimation, c'est 62 ans. Ça veut dire que l'âge moyen des malades en réa est de 62 ans. La médiane est de 70 ans. Ça veut dire que la moitié des patients en réanimation a moins de 70 ans. Donc, il faudrait aussi choisir un âge, les conditions de respect de cet isolement, et puis la solidarité entre les générations. Je veux dire, j'ai pas vu un modèle qui fonctionne mieux qu'un autre de façon générale, mais j'ai pas vu un modèle dans lequel on privilégierait l'isolement des personnes vulnérables qui ait fait preuve de son efficacité.
Olivier Véran, le retour des messes en public, dans les églises, des cultes, dans les temples, des cérémonies, dans les synagogues et les mosquées, pas avant la réouverture des commerces, hein. C'est bien cela, c'est bien ce qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur.
Les offices religieux qui rassemblent des gens.
Il y a une étude américaine,
vous l'avez sans doute vu, Jean-Jacques Bourdin,
parce que vous
êtes extrêmement attentif.
Je l'ai vu.
Qui montre que dans les lieux publics de contamination, en un, il y a les restaurants, en deux, il y a les salles de sport, comme quoi, en trois, il y a les bars, et en quatre, il y a les offices religieux. Ce qui n'est pas incompréhensible, puisque les gens se retrouvent dans une salle fermée, il va y avoir souvent des chants, en tout cas de l'expression verbale, et donc on sait que c'est un endroit à contamination. C'est pas pour empêcher les gens de pratiquer leur culte. Il n'a jamais été dans l'ambition du gouvernement d'empêcher, de toute façon, les gens de vivre ce qu'ils ont à vivre par principe. Mais c'est une mesure de protection qui est encore nécessaire. Je note d'ailleurs que certains pays, comme la Corée du Sud, je voyais ce matin, la Corée du Sud qui enregistre une reprise de l'épidémie depuis 3 jours sur son territoire. Parmi les premières mesures qu'elle vient de prendre, il y a réinstauration de jauges dans les endroits où il y a des offices religieux. Ils ont diagnostiqué 250 malades hier. Donc, encore une fois, si on veut être pleinement efficace dans notre politique de lutte contre le virus, nous devons prendre des mesures fortes au bon moment et les tenir dans la durée.
Olivier Véran, les commerces non essentiels, je déteste...
Oui, le mot n'est pas bien. Ah oui, c'est première nécessité.
Qui est allé inventer cette... Je ne sais pas, c'est peut-être un terme juridique
consacré. Il n'y a pas de commerce qui ne soit pas essentiel par définition, parce que si on va chercher quelque chose, c'est qu'on en a besoin ou envie. Et l'envie est essentielle, elle aussi.
Les commerces pourront-ils rouvrir avant le 1er décembre ?
Moi, je souhaite, encore une fois, que nous soyons efficaces dans la durée, et que nous soyons constants dans les mesures que nous prenons pour freiner le virus. Donc, la politique du stop and go, Jean-Jacques Bourdin, ne serait pas bonne pour notre pays.
Donc
et le plus grand risque que nous prendrions...
ne rouvriront pas avant le 1er décembre.
Je ne suis pas ni Premier ministre, ni président de la République.
Vous me demandez que vous souhaitez qu'ils rouvrent
avant le 1er décembre.
Vous me demandez
comme ministre de la Santé. Je souhaite que les commerces puissent rouvrir, un, le plus tôt possible.
Non, mais ça, oui.
Deux, dans des conditions sanitaires qui permettent d'assurer la sécurité des Français. Trois, au moment où nous aurons déjà suffisamment fait baisser la pression épidémique pour être sûr que nous ne serions pas obligés de les refermer
donc
quelques jours après en catastrophe.
Vous dites, compte tenu de
je vous dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de penser que nous pourrions les rouvrir le 27 si la situation devait évoluer dans le...
Je parlais du 1er décembre.
Ah, du 1er décembre, pardon. Oui. Parce que j'ai vu que c'était le 27 qui était abordé dans la presse ce matin.
Mais vous comprenez pourquoi? Le 27, c'est demandé par tout le monde. 27-28 décembre, c'est un week-end
novembre.
Très fort.
27-28
novembre, c'est un week-end très fort. C'est le l'un des week-ends les plus forts commercialement de l'année.
J'entends ça, oui, Jean-Jacques Bourdin. J'entends parfaitement ça. J'entends la détresse des commerçants. J'entends l'envie des commerçants de rouvrir. J'entends aussi la nécessité...
Un Black Friday aussi
J'entends la nécessité absolue de rouvrir dans des conditions sanitaires qui évitent le stop and go. Rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces, de se dire une semaine plus tard, oh mince, ça repart, on a rouvert trop tôt, il faut refermer. Parce que là, plus personne n'y comprendrait rien. Donc moi, je préfère un choix difficile, mais le choix de la constance et de la sécurité, tout en continuant d'accompagner les commerçants. Et
Vous n'êtes pas favorable à l'ouverture des commerces le 27.
Être ministre des Solidarités et de la Santé,
oui.
Ça veut dire prôner une stratégie qui permette de protéger la santé des Français, qui soit cohérente dans la durée, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir aussi dans l'arrière-pensée que les commerçants sont en grande difficulté dans notre pays aujourd'hui et qu'ils attendent de nous qu'on leur permette de rouvrir dans des bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles et le plus tôt possible. On le fera au bon moment.
Commerces, hein. On parle des bars, on parle des restaurants, on parle effectivement des réunions publiques et notamment dans les lieux de culte. On ne parle pas des commerces.
Si il est question des commerces, il est question des systèmes de jauge qui peuvent être efficaces, il est question des systèmes de rendez-vous qui peuvent être efficaces.
Des rendez-vous. Mais pourquoi ne pas ouvrir en mettant en place
Je vais vous rappeler quelque chose, Jean-Luc Bourdin.
Oui.
Vous vous souvenez la dernière fois que je suis venu sur votre plateau?
Oui.
C'était l'été.
Au mois de juillet, début juillet.
Moi, je me souviens très bien qu'à l'extérieur de votre studio, avant que j'entre, il y avait un cortège d'une trentaine de personnes avec une banderole qui m'attendait. C'était les représentants du monde de la nuit, des discothèques et des bars de nuit. Vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens.
Et vous m'aviez posé la question. Mais écoutez, le virus circule moins, Olivier Véran, pourquoi est-ce que vous empêchez les discothèques de rouvrir? Ils ont une activité commerciale, c'est important. Je vous ai dit, mon rôle n'est pas simple. Il n'est pas de nier la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces gens-là. Et évidemment qu'il faut les accompagner, c'est ce que fait très bien le ministre de l'Économie et des Finances. Mais mon rôle, c'est de vous dire que si nous rouvrons trop tôt des structures qui présentent un risque sanitaire, alors nous en voudrons. Est-ce que vous considérez, Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, que j'ai eu raison de ne pas rouvrir les discothèques la dernière fois que je suis venu sur votre plateau?
Olivier Véran.
Non, mais je vous pose la question.
Non, mais moi, je ne réponds jamais aux questions.
Oui, mais je suis sûr que vous avez la réponse. Parce qu'elle a été démontrée par les faits. Donc, on essaye. On se fixe une ligne de cohérence, qui est aussi la ligne que se fixent la plupart des pays voisins et certains pays autour de nous, qui ont fait le choix de ne pas tout fermer et d'y aller progressivement. Un certain nombre d'entre eux sont en train de tout fermer. C'est le cas notamment de l'Autriche qui n'y arrive pas. L'Italie, vous avez vu la courbe italienne, pour me citer en exemple, il y a un mois et demi, les pauvres, hélas, ils font face à une telle résurgence épidémique qu'ils sont obligés à nouveau de fermer les choses. L'Allemagne va aussi augmenter les fermetures.
Aussi Bruno Le Maire. Hein, que dit-il? Le gouvernement et les organisations professionnelles travaillent sur un nouveau protocole sanitaire qui sera opérationnel lundi prochain si l'épidémie continue de refluer. Avec ce protocole sanitaire, les conditions de réouverture seront réunies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Mais
vous êtes d'accord avec lui?
Je suis d'accord sur le fait que je travaille avec Bruno Le Maire, que nous rencontrons les acteurs et que nous partageons deux nécessités absolues. Laissez-moi finir juste cette phrase. Nous partageons avec Bruno Le Maire deux nécessités absolues.
Oui.
Un, protéger la sécurité des Français et la santé des Français. Deux, faire en sorte de pouvoir rouvrir le moment venu les commerces dans les bonnes conditions pour ne pas avoir à les refermer. Donc ce dialogue singulier entre le ministre de la Santé et le ministre de l'économie et des Finances, sous évidemment la responsabilité du Premier ministre, nous permet toujours de prendre des décisions qui vont dans le sens du sanitaire, en accompagnant les acteurs économiques, ce que nous continuerons de faire le temps nécessaire.
Compte tenu de la situation aujourd'hui, pas question de rouvrir le 27.
Je ne vous donne pas de date, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je vous dis que cette décision appartient au gouvernement, qu'elle sera partagée bientôt avec les Français, mais que ça ne se fera pas sous la pression, ni dans un sens, ni dans l'autre. La seule pression qui est la nôtre aujourd'hui, dans l'urgence, c'est de faire en sorte que notre stratégie pour lutter contre l'épidémie et protéger les Français paye dans la durée.
Alors, des commerçants refusent de fermer, comment faire, Olivier Véran? Des commerçants continuent à ouvrir, vous le savez.
D'abord, rappeler qu'un commerçant qui est obligé de fermer pour raison administrative est accompagné financièrement comme jamais et comme dans nul autre pays. ce dont il est important de rappeler la teneur, parce qu'il est hors de question de laisser un commerçant fermé en raison de la crise sanitaire définitivement. Donc il faut les accompagner, ce que nous faisons, dans la durée et aussi longtemps que nécessaire. Bruno Le Maire a présenté des cas types qui montraient que lorsqu'un responsable de salon de coiffure fermé, par exemple, entre le fonds de solidarité, entre la prise en charge des loyers, entre le chômage partiel qu'il pouvait mettre en place, il ne perdait quasiment rien. Ça ne veut pas dire que la situation soit idyllique, et les commerçants, ils ont envie de vivre de leur profession, et souvent il y a une logique patrimoniale. Souvent c'est ce qu'ils ont. Parfois c'est ce qui leur a été transmis. Ils l'ont au corps. Ils ne demandent pas à ce qu'on leur donne de l'argent pour ne pas fonctionner. Ils demandent à gagner leur argent par eux-mêmes. Et nous le comprenons. Et moi, ministre des Solidarités et de la Santé, je le comprends plus que nul autre. Mais encore une fois, prenez l'exemple du Canada. Le Canada qui fait face à une épidémie, qui avait mis en place des mesures pour freiner l'épidémie. Ils ont dit c'est Thanksgiving, les amis. Thanksgiving, c'est quand même important. Thanksgiving en Amérique du Nord, c'est extrêmement important. Eh bien, résurgence de l'épidémie, croissance des cas derrière, ils sont obligés de refermer. Donc on ne veut pas de cela, et les Français nous en voudraient, ils auraient raison. Donc nous ferons les choses au bon moment. Pardon, je me répète, mais c'est important.
Non, mais les restaurateurs, les gérants de bars, les gérants de boîtes de nuit, de clubs de sport, peuvent-ils espérer ouvrir avant début janvier, franchement?
La question des restaurateurs et des bars est encore plus complexe que pour l'ensemble des commerces dans notre pays.
Est-ce qu'ils peuvent espérer ouvrir avant début janvier?
Je ne peux pas vous répondre de façon formelle à cette question. Je peux vous dire qu'ils ne rouvriront pas début décembre, ça c'est un fait.
Oui.
Parce que c'est un lieu de fort risque
de contamination.
Et ils ne
rouvriront pas début janvier.
Nous verrons pour début janvier, nous donnerons de la visibilité aux acteurs économiques, qu'ils soient dans la restauration ou dans les commerces, au moment venu, Jean-Jacques Bourdin. Je ne fais pas de prévision. Ce que je veux, c'est que nous ayons retrouvé un niveau de circulation bas du virus et que nous protégions nos hôpitaux.
Bien, les tests antigéniques. Alors, ces tests antigéniques, l'État a commandé combien ? 20 millions de tests, c'est bien cela ?
Nous avons commandé 5 millions, puis 5 millions, puis précommandé 20 millions supplémentaires, ça c'est pour le stock d'État. Et tous les acteurs de santé qui le souhaitent peuvent également acheter des tests antigéniques par leurs propres moyens.
Quelle répartition ?
Et nous les couvrons en prenant en charge à 100%.
Vous prenez en charge à 100%, c'est gratuit, hein ?
Ah oui ?
Bon.
Enfin, c'est pas gratuit, parce que c'est l'État qui paye, donc c'est vous, Jean-Jacques Bourdin. C'est vos impôts qui les payent.
Oui, c'est vrai. Quelle répartition, ces tests ?
C'est-à-dire,
ce sont les pharmaciens qui vont les recevoir.
Dans les tests qui ont été réalisés, vous savez que nous avons commencé par des expérimentations grandeur nature avant même d'avoir les autorisations par la Haute Autorité de Santé. Des expérimentations, on a le droit. Par exemple, il y a près de 200 000 tests qui ont été réalisés dans nos EHPAD la semaine dernière. C'est beaucoup. Ça se voit pas, mais c'est fait, et c'est grâce à l'action déterminée de tous les acteurs sur le terrain. Désormais, les pharmaciens peuvent en faire, les médecins libéraux peuvent en faire, les infirmiers peuvent en faire.
Donc je vais chez un pharmacien, je demande à être testé, je suis testé.
Alors, vous, si votre pharmacien réalise des tests, il pourra vous proposer des tests. Oui. En priorité, votre pharmacien vous testera si vous êtes symptomatique.
Oui.
Il ne vous testera pas si vous êtes cas contact, parce que là, vous relevez d'un test PCR en laboratoire. Les tests PCR sont plus sensibles, donc on risque moins de passer à côté de quelqu'un de positif. Si vous êtes symptomatique et que votre pharmacien, votre médecin, votre infirmier, demain votre dentiste, votre masseur kinésithérapeute pourra aussi le faire. J'ai signé l'arrêté cette nuit, qui permet d'élargir davantage, et on consulte les professions pour que tout le monde puisse en faire demain.
Donc les masseurs.
Et si vous êtes asymptomatique et que vous vous posez la question avant d'aller voir je ne sais qui et que vous vous posez la question, peut-être que votre professionnel de santé, votre pharmacien, pourra éventuellement accepter de vous le faire, mais il ne sera pas obligé. Ce que nous lui demandons, c'est vraiment de prioriser les patients qui sont symptomatiques. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin ? Un test antigénique, il a un atout formidable par rapport au test PCR. C'est qu'il est rapide. Vous avez vu déjà fonctionner, ça prend 15-20 minutes pour avoir le résultat. Un test PCR, c'est plus long, même si les labos font un boulot remarquable sur tout le territoire, et merci à eux, et on aura évidemment toujours besoin d'eux, en masse et en quantité, ça restera le moyen principal de tester. Par contre, le test antigénique, vous risquez d'être faussement négatif, et donc faussement rassuré. Donc il faut faire très attention à ça. Quand vous êtes symptomatique, le risque est moindre, et en définitive, si vous avez vraiment les symptômes de Covid et que votre test antigénique est négatif, on vous enverra au labo pour compléter.
Hier, je recevais Valérie Pécresse, hier matin, à votre place, qui demandait à ce que des tests antigéniques soient pratiqués dans les lycées d'Île-de-France. Est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que dans les lycées, d'abord en Île-de-France et peut-être dans toute la France, on va tester ?
Alors, ce que nous faisons d'ores et déjà, c'est que nous testons, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'en occupe, qui a cette responsabilité-là, avec les pompiers, avec la médecine scolaire, les infirmiers scolaires, pour pouvoir tester massivement les enseignants qui le souhaitent, et régulièrement. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, nous allons initier prochainement une expérimentation auprès des lycéens volontaires, pour justement... C'est des expérimentations qui sont montées, je demanderai au ministre de l'Éducation nationale où est-ce qu'il en est, mais il travaille d'arrache-pied là-dessus, pour pouvoir commencer à développer des programmes de tests là où ça fait sens. Encore une fois... Il faut vraiment comprendre. Tester massivement, oui. Tester pour le plaisir de tester, non. Tester, ça veut dire que si vous êtes positif, il faut qu'on soit capable de faire du contact tracing et de vous mettre à l'abri derrière, c'est-à-dire de réaliser
si
l'isolement.
Je vous parle des tests,
l'idée, c'est de casser les chaînes de contamination et pas de vous répondre oui ou non.
Mais si je vous parle des tests, parce que vous avez vu ce qu'a fait la Slovaquie, hein, qui a testé toute sa population, le mass testing. 5,5 millions de personnes en Slovaquie, 70% de la population a été testée. Le résultat, un peu plus de 1% de personnes positives.
Probablement, ce qu'on trouverait en France, 1,5% de personnes positives.
On trouverait la même chose en France.
Probablement.
J'ai vu que la région Auvergne-Rhône-Alpes allait faire la même chose.
Non.
Non.
Le président de la région a annoncé qu'il avait précommandé des tests dans le but de me lancer une opération à l'échelle régionale. Pour l'instant, j'ai vérifié avec le directeur général de l'ARS, il n'a pas été informé ni au courant, ni le préfet. Donc attention à l'effet d'annonce. Par contre, ce qui est intéressant...
C'est un effet d'annonce de Laurent Wauquiez.
Ça vous surprend, Jean-Luc Bourdin. Je vous vois rire. Néanmoins, Jean-Jacques Bourdin, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de mener... Encore une fois, des opérations de mass testing, c'est-à-dire des testings de masse à l'échelle de population. Pourquoi pas? On y travaille d'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs de santé pour monter, voir la faisabilité d'un tel projet. Mais ce qui est important, c'est pas de tester les gens. C'est d'être sûr qu'une fois qu'on les a testés, on est capable de les mettre à l'abri. De les mettre à l'abri pour éviter les contaminations et de faire du contact tracing. C'est pour ça que quand il y a des opérations collectives, et on va en mener en entreprise, en collectivité, on accompagnera, il faut qu'elles soient menées en concertation avec les autorités de santé, parce que sinon vous allez faire quoi? Vous allez tester des gens, puis après vous leur dites, appelez votre médecin, débrouillez-vous.
Non, mais
c'est pas possible.
Celle et celui qui se retrouve positif doit rester à l'isolement, on est bien d'accord. On est bien d'accord.
Bien
sûr. Est-ce qu'en France, on va instaurer des amendes?
Aujourd'hui, le droit.
Punir ceux qui sortent, alors qu'ils sont positifs.
Aujourd'hui, le droit ne le permet pas. Alors, j'aime pas le terme de punir un malade. Pardon, c'est le côté médecin.
Pardon.
On oublie.
J'enlève le mot punir.
Protéger.
Les amendes sont
protégées.
Oui, dans d'autres pays d'Europe, vous avez vu le montant des amendes. En Allemagne, dans d'autres pays, partout en Europe.
Alors,
même en Espagne, c'est de la prison.
Première question, Jean-Luc Bourdin, parce que vous êtes observateur et fin connaisseur.
Oui.
Est-ce que vous avez vu une différence d'évolution de l'épidémie selon qu'on mette des amendes ou non aux gens quand ils sont censés être isolés? Moi, je peux vous citer au moins 5 pays autour de nous qui ont mis en place des systèmes contraignants à l'isolement et qui sont à un niveau d'épidémie au moins similaire au nôtre. Bon, premier point. Deuxième point, est-ce que c'est un débat qu'il faut refuser par principe? La réponse est non. Dans notre droit, nous n'avons aucun outil et ça n'a jamais été fait, y compris pour la tuberculose, qui est une maladie hautement contagieuse. Et en France, nous avons fait depuis le début le choix de la responsabilité et de la confiance. Maintenant, c'est un débat démocratique. Moi, j'ai été parlementaire et j'entends l'ensemble des groupes parlementaires, notamment des oppositions, dire on trouve pas notre place dans votre affaire, vous nous consultez pas suffisamment. On pourrait en débattre pendant des heures, j'ai passé 400 heures au Parlement depuis le début de la crise. Mais pourquoi les groupes parlementaires ne s'empareraient-ils
vous
pas
le souhaitez,
de ce sujet
vous le souhaitez,
pour qu'on ait un débat démocratique?
Vous souhaitez qu'un débat s'ouvre sur la possibilité de mettre des amendes à celles et ceux qui ne restent pas isolés alors qu'ils sont contaminés?
Je ne souhaite jamais écarter un débat par principe. Un, parce que je crois au débat. Deux, parce que je n'ai pas la réponse à cette question.
Oui.
Trois, parce que c'est une demande qui commence à monter dans la population de dire protégez-nous davantage. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement y aller, ça ne veut pas dire que si on y va, ce sera nécessairement plus efficace, mais ça vaut le coup de se poser la question.
Bien, Olivier Véran, parlons des vaccins. C'est important, il est 8h43. Quand les premiers Français seront-ils vaccinés?
Alors, la date précise, si je vous répondais,
vous avez
à nouveau,
le 12 janvier,
je prendrais
bien sûr,
un certain nombre de risques. Ce que je peux vous dire, exactement là où nous en sommes, il y a un laboratoire qui a communiqué des données intermédiaires suite à son étude clinique en population générale, ce qu'on appelle l'étude de phase 3, auprès de 40 000 personnes, aux agences américaines et européennes du médicament. On espère que d'ici 3 semaines, le laboratoire, le Pfizer en question, aura donné la totalité de ces données scientifiques qui permettront à ces deux agences, notamment, il y en aura d'autres, de faire une analyse des données rapide et de nous dire si oui ou non, on peut commencer à instruire les dossiers à l'échelle des pays en vue de vacciner. À ce moment-là, j'aurai, comme ministre de la Santé, accès aux données scientifiques. Chez qui le vaccin est-il efficace? Est-ce que c'est plutôt les âgés? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ou est-ce qu'ils sont modérés et maîtrisés? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont été vaccinés mais qui attrapent quand même la maladie? Est-ce que c'est une forme plus bénigne ou est-ce que c'est une forme plus grave? Au bout de combien de temps l'immunité conférée par le vaccin disparaît-elle? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 2 ans? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai besoin de savoir si le vaccin est efficace et sûr, Et s'il est efficace et sûr et que nous avons des autorisations, nous travaillons évidemment en temps masqué, en termes de logistique, qui est un travail monstrueux, croyez-moi, pour pouvoir commencer la vaccination au début de l'année 2021. Mais si nous n'avons pas toutes
la
les certitudes...
Si nous avons ces certitudes, la vaccination commencera début de l'année 2021.
En tout cas, nous ne serons pas freinés par des questions logistiques et nous avons fait en sorte, avec la Commission européenne, d'avoir un approvisionnement de l'ensemble des pays européens progressivement.
Combien de doses avons-nous préachetées? Nous, les Français.
Alors, nous, les Français, c'est nous, les Européens, Jean-Jacques Bourdin.
Nous
prenons au prorata du marché européen. Donc, nous avons, par exemple, sur le vaccin Pfizer, nous avons précommandé l'équivalent de 30 millions de doses. Il faut deux doses pour vacciner une personne. Oui. Et nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de compléter. Il y a d'autres types de vaccins.
Lesquels?
Par d'autres laboratoires.
Moderna.
Il y a Moderna qui a communiqué. Il y a AstraZeneca avec la recherche qui est développée par l'Université publique de Oxford, qui devrait communiquer bientôt. Il y a Sanofi qui devrait communiquer aux alentours du printemps. Enfin, le printemps, ne croyez pas que c'est tardif.
Oui.
Ne croyez pas que c'est tardif. Ça prendra du temps de vacciner les Français. Ça prendra du temps de les vacciner. Et donc, nous aurons les premières arrivées de vaccins au début de l'année, si ils sont validés. Encore une fois, je ne prendrai aucun risque avec la santé des Français.
S'ils sont validés, on commencera la vaccination au mois de janvier.
On sera en mesure, si j'ai toutes les autorisations requises.
20 millions.
Je mets énormément de si.
Oui, mais j'ai compris. Mais 20 millions d'Américains pourraient être vaccinés avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Hein, c'est ce qu'annoncent les Américains. Bon, qui sera vacciné en priorité?
J'ai saisi la Haute Autorité de Santé, qui fait une consultation nationale. J'invite d'ailleurs les Français qui s'intéressent à cette question à y participer.
Oui.
Et la Haute Autorité de Santé devra déterminer quand elle aura accès aux données scientifiques. Jean-Jacques Bourdin, on parle dans le vide. Elle nous dira, est-ce que c'est plutôt les soignants? Est-ce que c'est plutôt les personnes âgées? Est-ce que c'est plutôt les gens malades? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt les jeunes bien portants qui doivent être vaccinés en priorité? J'ai également saisi le Conseil Consultatif National d'Éthique, parce que la question de la vaccination, elle va soulever énormément de questions éthiques. Vous allez me poser dans deux minutes la question de faut-il rendre obligatoire la vaccination?
Voilà.
Vous allez me dire faut-il vacciner les soignants? Est-ce qu'on vaccine les jeunes femmes? Etc. Donc
est-ce
on aura.
Rendre obligatoire la vaccination.
Mais moi j'admire. Enfin, j'admire. C'est de l'ironie. J'essaye d'arrêter l'ironie. Mais je trouve assez incroyable que des gens, des experts ou des politiques puissent déjà avoir un avis sur cette question. Parce que moi je n'en ai pas. Et c'est pas que j'en ai pas parce que je ne maîtrise pas le sujet ou parce que je m'en désintéresse. C'est que avant même de me poser la question de l'obligation vaccinale, je me pose la question de allons-nous avoir déjà un vaccin? Quelles sont ses caractéristiques?
Nous allons avoir un vaccin.
Tout est question
Olivier
de balance.
Véran,
j'espère que nous aurons un vaccin sûr et efficace. Je reste prudent. Jean-Jacques Bourdin, je reste prudent. Tout est question de balance bénéfice sur risque.
Vaccin gratuit?
Ça, je peux vous répondre. Oui, les tests sont gratuits. Toute la prise en charge de la maladie Covid est gratuite depuis le début. J'envisage mal qu'on fasse payer les Français pour une vaccination contre un virus aussi...
Vous ferez vacciner le jour où le vaccin sera fiable.
Mais je vais m'aller au-delà de ça. Vous savez, le jour où j'aurai un arrêté à signer avec une autorisation d'une agence de santé qui me dit « Vous pouvez proposer le vaccin en confiance à la France et aux Français », c'est que je serai non seulement en état de me vacciner, mais aussi en état de vacciner mes parents et mes enfants, s'ils répondent aux indications. Il est évident que je ne ferai pas courir un risque aux Français, que je ne ferai pas courir à moi-même ou à ma famille. Donc là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Mais ça ne veut pas dire que c'est un débat qui va être tranché comme ça, d'un claquement de doigts.
Surtout dans
un pays comme la France, où les gens sont assez réservés sur la question de la vaccination, il faut être prudent et il faut être transparent. Il n'y a rien que je saurais sur le vaccin que les Français ne sauront pas.
Bien.
Je partagerai la totalité des informations, ce que je viens de faire d'ailleurs.
Est-ce que les vaccins seront suffisants pour vaincre la pandémie?
Est-ce qu'un vaccin est suffisant pour vaincre une pandémie? Dans l'histoire des maladies infectieuses, il nous arrivait de vaincre des maladies infectieuses grâce à la vaccination.
Oui.
Il y en a une que les Français ont oubliée, moi je ne l'ai pas connue, ça s'appelle la variole, qui faisait des dégâts considérables. C'est d'ailleurs le père de la vaccination qui s'appelait Jenner, qui avait inventé la variolisation, qui est devenu l'ancêtre de la vaccination et qui a permis d'éradiquer la variole. Il reste quelques souches virales sous le permafrost. On espère qu'elles ne ressurgiront pas avec le temps, mais on a gardé dans quelques laboratoires dans le monde des moyens de fabriquer un vaccin s'il devait ressurgir. La vaccination a sauvé l'humanité de la variole. La vaccination est en train de sauver l'humanité de la poliomyélite. Il reste quelques centaines de cas par an dans certains pays, mais la poliomyélite qui décimait aussi les populations entières a quasiment disparu. Donc si vous me posez la question de est-ce qu'un vaccin peut nous permettre d'éradiquer une maladie infectieuse, c'est sans doute une des plus grandes aventures humaines que d'être capable de se protéger contre un agresseur extérieur à travers une vaccination.
Un vaccin peut éradiquer.
La vaccination peut éradiquer une maladie. Est-ce que le vaccin Covid va éradiquer le Covid? Je ne sais pas.
Bien. Vous êtes ministre de la Solidarité. Il nous reste 4-5 minutes. Je voudrais qu'on parle de la précarité. pauvreté qui est en train de s'étendre en France. C'est un vrai problème, plus qu'un problème même, un danger pour notre société, Olivier Véran. Alors, je vous propose quelques solutions. Le RSA pour les 18-25 ans, oui ou non ?
C'est pas la solution que nous privilégions.
C'est pas la solution.
C'est une vraie question, Jean-Jacques Bourdin. C'est une vraie question.
C'est une vraie question, oui.
Il y a plus de 20% d'augmentation des Français qui vont fréquenter maintenant les aides alimentaires. J'ai participé à une maraude avec les Restos du Cœur il y a 2 semaines à Paris et j'ai pu constater qu'il y avait un public jeune notamment, un public étudiant qui ne vit plus de ses jobs. Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche, travaille pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'aide et de soutien par l'insertion aussi pour ces étudiants. Le choix de ce gouvernement, et j'y crois, Jean-Luc Bourdin, c'est le plan d'Elisabeth Borne par exemple, aucun jeune sans solution. C'est les 6,5 milliards avec le plan d'investissement pour pouvoir permettre aux jeunes de trouver un boulot. Enfin, pardon, le modèle de société auquel je crois profondément, oui, c'est le modèle par lequel on sort de la pauvreté par son travail et son activité. Donc oui, nous mettons le paquet là-dessus.
C'est de la protection.
Mais pour autant,
c'est
il faut de la protection.
Parce qu'en ce moment, le travail et l'activité, pardon, Olivier Véran, il n'y en a pas. Donc c'est de la protection. Est-ce qu'on sort un pays uniquement par la protection ?
On ne sort pas un pays uniquement par la protection. On a besoin de protection.
Le nombre d'hommes et de femmes, de jeunes notamment, qui sortent des circuits classiques des aides sociales et qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain.
Jean-Luc Bourdin, j'en ai pleinement conscience. Ce que je vous dis, c'est que nous mettons le paquet.
Par exemple,
que
des maires qui demandent un soutien financier urgent de l'État pour les quartiers populaires.
Jean-Jacques Bourdin,
est-ce que vous allez répondre favorablement ?
Si vous me laissez répondre.
Mais allez-y, je vous laisse, mais allez-y.
Le paquet, nous le mettons sur l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle pour les jeunes. Ça fonctionnait en 2019. La crise rebat les cartes. Ça fonctionnait en 2019. Nous faisions reculer le nombre de demandeurs au RSA. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans notre pays. Ça, c'est un fait. Et j'y crois. La première des solidarités, c'est l'emploi. Oui, il faut des protections pour celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi. En particulier dans la période que nous connaissons. Il y a des mécanismes qui existent et que nous développons. La garantie jeune, les aides. 3 milliards d'euros de prestations, Jean-Jacques Bourdin, 3 milliards d'euros de prestations ont été versés aux jeunes et aux familles pauvres dans notre pays depuis le début du confinement, du premier confinement, avec l'augmentation de l'allocation rentrée scolaire, avec les 2 allocations exceptionnelles de solidarité, avec, non mais,
oui,
ce que je veux dire, nous ne faisons pas rien. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Le fait est que qu'aujourd'hui la précarité,
est-ce que ça suffit?
La précarité augmente du fait du confinement et du fait surtout de l'épidémie dans notre pays. Et donc c'est pour ça que quand on dit que la vision économique et sanitaire ne doit pas s'opposer.
Alors est-ce que ça suffit, Olivier Véran?
Non, nous continuons de mettre en place des mécanismes, des dispositifs de soutien. Nous mettons en permanence, Jean-Jacques Bourdin, nous développons l'apprentissage, nous trouvons des jobs, des stages, nous trouvons des intégrations dans l'emploi. Nous avons cette politique vraiment déterminée pour permettre à chacun de s'en sortir. Je ne crois pas que le RSA 18-25 soit une solution, en tout cas pas une solution pérenne.
Étendue jusqu'à 23 ans, par exemple, provisoirement.
Et pourquoi pas dans ce cas-là 25 ou 27 ou 28 ? La question n'est pas là, Jean-Luc Bourdin. La question, elle est de 1, de reconnaître que la précarité réaugmente dans notre pays alors qu'elle avait diminué depuis entre 2017 et 2019. Elle est de reconnaître que partout où nous le pouvons, nous mettons des ressources d'urgence pour permettre à chacun de s'en sortir. Elle est de reconnaître que nous mettons le paquet comme jamais nous l'avons mis sur l'insertion par l'emploi, la formation pour les jeunes et les moins jeunes dans notre pays. Alors, non mais attendez, c'est ça les solutions curatives. En médecine, vous savez, on dit qu'il y a le palliatif et le curatif. Le palliatif, on peut vivoter longtemps avec 400 balles par mois quand on a 24 ans, c'est pas une perspective de vie. Ça n'est pas une perspective de vie. Par contre, trouver un boulot et pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, ça l'est. Tant qu'on n'y arrive pas, il faut être aidé. Mais il faut être surtout aidé à trouver.
Réponse très brève, le 5e risque, la prise en charge de la dépendance, projet de loi quand ?
Le projet de loi prochainement, vous imaginez prochainement, bien que ce qui se passe dans notre pays a forcément perturbé un peu la donne.
Bon, et puis PPL sécurité à l'Assemblée nationale, l'article 24, punir la diffusion dans un but malveillant d'image du visage d'un policier ou d'un gendarme. Vous êtes un homme de gauche, vous n'avez aucune réserve.
Je n'ai aucune réserve sur ce point, je le dis très franchement, c'est pas la captation qu'on empêche. La diffusion sur Internet de l'identité de quelqu'un qui est chargé d'assurer notre sécurité, quand on voit qu'il y a des agents de police qui ont du mal à rentrer chez eux parce qu'ils se font attendre avec des guet-apens, je ne comprends, pardon, Jean-Jacques Bourdin. Et là, c'est pas une question de gauche ou de droite.
Non.
C'est une question d'humanité. Pardon.
Oui.
Je le considère comme ça. On doit protéger celles et ceux qui prennent soin de nous et qui nous protègent. Il en va de la même chose pour les soignants, pour les pompiers, pour les agents de police. Nous sommes dans un pays aujourd'hui porté à une uniforme ou une combinaison et quelque chose qui peut vous mettre en danger parce que vous représentez l'État et la République. Nous devons défendre l'État, la République partout et celles et ceux qui l'incarnent en premier lieu.
Merci Olivier Véran. RMC, BFM TV, il est 8h54.